Et donc, voilà, une fois qu'il a été apaisé, il a donné une parole de Dieu. Et ça a été le succès. Donc, on va juste relire cette parole de Dieu. Vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais cette ouette, c'est-à-dire ce torrent, hein, se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et vos bêtes. Donc, première chose, l'eau viendra, mais pas comme d'habitude. Elle viendra de plus loin. Et comme je vous avais expliqué, ces torrents se remplissent d'un seul coup, et c'est même assez dangereux. Mais cela est peu de choses aux yeux du Seigneur. Il vous livrera Moab, etc. Donc, promesse de victoire. Ce qu'il avait demandé aussi, c'est de creuser des fosses pour que quand l'eau va arriver, effectivement, elle ne glisse pas sur le terrain desséché, mais qu'elle puisse remplir des fosses, ce qui est assez logique finalement. Et voilà comment ça s'est passé. Au moment du... Je cherche l'endroit. Au matin, au moment de la présentation de l'offrande, à l'heure où donc au temple de Jérusalem, on présentait l'offrande à Dieu, c'est à cette heure-là que l'eau est arrivée du côté d'Édom et le pays a été rempli d'eau. Donc, vous voyez, parfois, Dieu ne fait pas toujours la même chose, on avait dit la dernière fois. Parfois, il nous surprend sur le comment. Hein, on a dit le comment, il est entre les mains de Dieu. Il avait promis qu'il y aurait de l'eau, mais pas comme d'habitude. Vous ne verrez pas de vent, vous ne sentirez pas de vent, vous ne verrez pas de pluie, mais le torrent va se remplir. Et donc, heureusement, ils avaient creusé des fosses. Et vous allez voir, il y a une deuxième raison. Heureusement qu'ils ont creusé des fosses. D'une part, ça a retenu l'eau, ils ont pu boire, etc. Et il y a une autre raison, on va la voir après. Donc au verset 21, on est dans 2 Rois, chapitre 3, verset 21. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois venaient leur faire la guerre, c'est pas drôle, on mobilisa tous ceux qui étaient en âge de porter les armes, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et... ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils se dirent, oh, c'est du sang, les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont abattus les uns les autres. Maintenant, Moabites, au butin. Ils arrivèrent au camp d'Israël, mais Israël se leva et battit Moab, qui dut fuir pour échapper. Ils allèrent et battirent Moab. Bon, alors, ils rasèrent les villes, etc. Ils décrivent la bataille. Et puis, ils ont essayé de fuir, hein. Mais le roi de Moab, voyant que le combat dépassait ses forces, j'arrive au verset 26, voyant que le combat dépassait ses forces, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage, essayer de faire une percée dans l'armée ennemie, mais ils n'y parvinrent pas, jusqu'au roi d'Édom, mais n'y parvinrent pas. Il prit alors, et ça c'est horrible, il prit alors son fils premier-né, qui devait devenir roi à sa place, et il l'offrit en holocauste, c'est-à-dire en sacrifice, sur la muraille. Une grande colère s'abattit alors sur les Israélites qui s'éloignèrent de lui et retournèrent dans leur pays. Bon, les Moabites, jusqu'à présent, apparemment, ils n'avaient pas bien entendu les bruits de guerre, c'était pas parvenu jusqu'à eux, mais là, l'armée s'est rapprochée, il y a certainement eu des espions, des gens qui ont dit attention, il y a trois rois qui viennent contre le pays de Moab. Donc dès qu'ils ont su, ils se sont mis en rang pour le combat, ils ont convoqué les hommes valides et même les réservistes, hein, et ils les ont mis à la frontière de leur pays pour se protéger. Et apparemment, ils ont vu les choses d'en bas ou pas trop haut. Quand ils s'avancent vers le camp des Israélites, ils comptaient les prendre par surprise le matin, très tôt, dès que la lumière est venue. Qu'est-ce qu'ils voient? Sous le soleil rasant du matin, l'eau dans les fosses qu'ils ont creusées, elle semble rouge. Et j'avais pas réfléchi à ça, mais en relisant cette semaine, je me dis oui, mais donc il y avait une deuxième raison pour les fosses, c'était pour contenir l'eau, mais c'était aussi Dieu savait que ce matin-là, on aurait Red sky in the morning, comme on dit en anglais. Vous savez, on a un proverbe en anglais qui dit ciel rouge le soir. C'est le bonheur du marin. Ciel rouge le matin, c'est un avertissement, c'est un danger pour le marin. C'est là, oui, c'est ça. Et donc, vous avez dû remarquer que parfois, le soir, on a un ciel rouge. Et c'est très beau d'ailleurs. Et ça annonce en général du beau temps le lendemain. C'est presque infaillible. Ça fait des années que je regarde ça. Depuis que j'ai entendu ce proverbe d'ailleurs. C'était un monsieur qui faisait du cerf-volant au bord de la mer qui m'avait dit ça en Angleterre. Et ça se vérifie en général, hein. C'est peut-être pas du 100%, mais franchement, quand vous avez un beau ciel rouge le soir, c'est du beau temps pour le lendemain. Par contre, un ciel rouge le matin, c'est souvent un problème. Souvent, une tempête, vent, enfin, c'est pas du beau temps, en général. Et donc là, il se lève très tôt et on imagine très bien, avec un ciel rouge comme ça le matin, les fosses remplies d'eau reflétaient ce ciel rouge et ce soleil rouge. Et là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qui conclut les rois? Un petit peu rapidement, en fait, ils ont ça au fond de leur cœur. Trois rois ensemble qui viennent tout combattre. Ouh là là, c'est pas garanti. Ils vont peut-être se disputer. Ils vont peut-être se fâcher sur la stratégie à prendre, sur la route à prendre, etc. Ils se doutent bien que c'est pas évident, hein. Trois rois différents qui font la guerre ensemble. Donc déjà au fond de leur cœur, ils se disent, voilà, ça va peut-être pas durer. Ils vont peut-être se fâcher. Ils vont s'entretuer. Et là, en voyant les fosses rouges, ils se disent, ah bah ça y est, ils se sont battus, ils se sont entretués. Et maintenant, pour nous, on n'a plus qu'à piller le camp. Hein, alors, c'était classique hein, dans les armées de cette époque. On vient, on prend le matériel, la nourriture, parce qu'en général, quand ils se disputent et qu'ils se sauvent, ils s'entretuent, et puis ils n'ont pas le temps de ramener leurs biens et leurs animaux domestiques, les chevaux, etc. Donc, ils font une conclusion rapide. Et c'est vraiment une mauvaise déduction. Mais moi, j'ai cherché d'autres cas comme ça dans la Bible. Ça fait penser au psaume 81, verset 13, où Dieu dit « Je les ai livrés aux penchants de leur cœur. » Il y a des moments où les penchants de nos cœurs, ou les pensées de nos cœurs, vont dans le mauvais sens. Et c'est comme si Dieu disait « Ok, suis ta pensée. Suis ta pensée. » Aïe, ça c'est dangereux, hein. Et Dieu se sert de nos mauvaises conclusions. Il se sert surtout des mauvaises conclusions de l'ennemi, là. Parce qu'il veut secourir ses enfants. Il veut secourir ces trois rois et ces trois armées qui lui ont fait confiance, qui ont écouté la parole d'Élisée. Et Dieu se sert souvent, et je pensais à cette petite histoire que je raconte souvent aux enfants, c'était pendant la guerre. C'est une histoire vraie. Un soldat, je ne sais pas s'il était soldat, c'est un homme qui était chrétien, qui était dans une ferme, et les nazis, donc c'était sous l'occupation allemande, les nazis avaient décidé de venir le chercher, je ne sais plus pour quelle raison, mais pas pour lui faire du bien. Et il a cherché une cachette dans la ferme, c'était pas évident, là ils vont me trouver, là ils vont me trouver, il cherchait rapidement parce qu'on lui avait dit, ça y est, il y a les nazis qui viennent te chercher, dépêche-toi, cache-toi. Il n'avait pas le temps de s'enfuir. Et finalement, il a une idée géniale, le four à pain. Il n'était pas chaud, heureusement. Donc, il va se mettre, il se glisse dans le four à pain de la ferme et il se met le plus loin possible de l'entrée, évidemment, dans le noir, peut-être on ne le verra pas, etc. Et puis, déjà, il est apeuré, il est vraiment, il prie, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Et le comble, il détestait les araignées. Et qu'est-ce qu'il voit? Une grosse araignée qui commence à faire sa toile à l'entrée du four. Vous imaginez être enfermé dans un four tout noir, où il y a tout juste la place de se mettre en boule, et voir cette araignée qui travaille bien consciencieusement, hein, qui tire ses fils. Et quand on n'aime pas les araignées, comme c'est mon cas, c'est horrible. Et en plus, la peur d'être pris, évidemment, d'être découvert. Et donc dire, oh Seigneur, pourquoi tu permets ça? C'est horrible. Bon. Et puis, évidemment, ils ont cherché dans tout, ils sont arrivés les nazis, ils ont cherché dans toute la ferme. Et non, il n'est pas là, il n'est pas là, t'as regardé dans les greniers, les foins. Finalement, il dit, as-tu regardé le four à pain? Et là, il entend ça, il se dit, oh, ça y est, je suis perdu, c'est fini. Et puis, quelqu'un qui entrouvre le four à pain, qui voit cette grosse toile d'araignée qui était finie, elle avait fait vite, hein. Et qui dit, bah non, de toute façon, il y a une toile d'araignée à l'entrée, comment veux-tu? Bah oui, c'était une conclusion logique. Mais c'était Dieu qui avait tout préparé. Il a été sauvé grâce à cette toile d'araignée. Pensez-y quand vous voyez comme moi des araignées autour de vous. Elle a sauvé la vie de cet homme. Parce qu'ils ont pris la mauvaise conclusion. Il y a une toile d'araignée, donc c'est pas possible qu'il se soit réfugié là. Il l'aurait cassée en passant, évidemment. Et Dieu permet des choses comme ça parfois. Et dans notre vie, on a vu souvent comme quoi des mauvaises conclusions nous ont protégés de choses difficile. Et Dieu a permis que l'eau reste dans des fosses, que le soleil du matin y fasse des reflets rouges, pour que le roi de Moab fasse cette conclusion. Ils se sont entretués et voilà, maintenant nous on n'a plus qu'à piller le camp. Alors j'ai réfléchi, je ne sais pas s'il y en a certainement d'autres, réfléchissez peut-être si vous trouvez d'autres occasions comme ça dans la Bible, mais j'ai pensé aux Égyptiens quand ils ont voulu rattraper le peuple d'Israël qui était parti bien avant que lui ne démarre avec ses soldats. Ils se sont dit, oh, il n'y a aucun problème, hein, ils vont avoir la mer en face d'eux, pas de souci, on les aura. Mauvaise conclusion. C'est eux qui ont été eus par la mer, c'est pas le peuple d'Israël qui lui est passé à sec. Juste à temps. Goliath, vous savez, quand il a vu David arriver avec sa fronde, là, ça l'a fait rigoler, non mais quand même, ce petit jeune-là, tout fluet, qui vient avec quoi? Une fronde? Mais je rêve, l'autre, il était armé jusqu'aux dents. Ah oui, mais il y avait un petit espace là. Et mauvaise conclusion. Saül a pensé qu'il pouvait écraser David. Avec une armée très forte, Saül était un bon chef de guerre. Il pensait pouvoir coincer le jeune David avec cette poignée d'hommes là, 600 hommes, un peu de saquets de corde, il y avait un peu de tout, des mécontents de toutes sortes qui suivaient David. C'était pas une armée quand même très aguerrie. Il s'est dit, ça, j'aurais aucun problème. Eh ben, ça n'a pas marché parce que Dieu était avec David. Et la conclusion, c'était pas qu'il n'y ait pas de problème, c'est David qui gagnait chaque bataille. Et Absalom, on l'avait fait l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, Absalom, qui pensait que son père, David, était trop vieux et incompétent. C'est pas moi, je ferais beaucoup mieux. Et il a essayé de prendre la place de son père. Il voulait diriger le peuple d'une autre manière. Il a même détourné les amis de David et ses conseillers. Sa conclusion, c'est que il n'est plus compétent, il est trop âgé. Je vais prendre sa place. Et il a réussi jusqu'à un certain point, puisqu'il a quand même été jusqu'à lui faire la guerre. Mais c'était une mauvaise conclusion. C'est vrai qu'il était vieux, c'est vrai qu'il était peut-être, il y avait des domaines, il avait des domaines de faiblesse comme tous les humains. Mais c'était pas le temps de Dieu et c'était pas la volonté de Dieu. Donc, les hommes parfois font des mauvaises conclusions et Dieu s'en sert pour protéger ses enfants. Hein, donc, c'est quelque chose de assez bizarre, mais ça arrive. Donc on voit le roi de Moab qui cherche à faire une percée parce qu'il sent qu'il peut plus. Oui, le peuple s'est réveillé, ils étaient prêts, le temps que l'armée arrive, ils ont combattu, ils avaient bien bu, ils avaient eu tout ce qu'il leur fallait, ils étaient prêts à la bataille et ils ont gagné. Et le roi de Moab, désespéré, réunit 700 hommes autour de lui pour essayer de s'enfuir, mais ça marche pas. Donc il fait marche arrière, il va sur les murailles de la ville. Et il va sacrifier son fils aîné. Ah, c'était une époque, hein, terrible. Parce qu'il pensait par là, il donnait ce qu'il avait de plus précieux, le fils aîné qui devait lui succéder. En sacrifiant son fils sur la muraille, il pensait que son Dieu, qui s'appelait Kémosh, curieux comme nom, hein, il pensait que son Dieu, devant un tel sacrifice, allait lui venir en aide. Non. Mais par contre, les Israélites étaient tellement horrifiés parce que c'était interdit les sacrifices humains. On l'a vu avec Isaac, Dieu avait tout de suite arrêté. Les Israélites étaient tellement indignés de voir ça qu'ils ont fait demi-tour. Ils ne sont pas allés plus loin, ils avaient remporté la victoire. C'était pas la peine d'aller plus loin. Mission accomplie. Et je pensais à ce verset, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ils ont prié, Dieu leur a donné l'eau. Ils ont prié, ils ont eu la victoire, ils ont prié, Ils ont bénéficié des mauvaises conclusions du roi de Moab. Dieu a été avec eux, de toutes sortes de manières, même si le comment, franchement, les a dépassés. Est-ce qu'ils étaient conscients? Oui, probablement que l'eau était tombée ailleurs et qu'elle avait coulé dans le torrent. Mais voilà, Dieu a fait des grandes choses, mais à sa manière. Le comment est entre ses mains. Voilà, et on va passer à l'histoire suivante. Alors, qui est extraordinaire aussi. Je sais, quand j'étais à l'école du dimanche, c'était une de mes histoires préférées. Chapitre 4. Chapitre 4, versets 1 à 7. La femme d'un des prophètes cria vers Élisée. « Mon mari, ton serviteur, est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ?» Retenez bien cette phrase, ça doit vous rappeler autre chose. « Que puis-je faire pour toi ?» Et apparemment, elle ne répond pas. « Dis-moi ce que tu as à la maison. » Deuxième question. « Dis-moi ce que tu as à la maison. » Ça aussi, ça doit vous rappeler quelque chose. Et là, elle répond. Elle répondit, « Moi, ta servante, je n'ai rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Il dit alors, « Sors dans la rue. Demande à tous tes voisins des récipients vides. » J'aime bien, il précise, « Ne te contente pas d'un petit nombre. » Ça aussi, ça fait penser à autre chose. « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. » Et tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. C'est quand même bizarre. Hein? Alors elle le quitta, Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Il lui passait les récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, elle dit à son fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de récipient. » Alors, l'huile s'arrêta. Elle va raconter tout cela à l'homme de Dieu, donc Élisée. Celui-ci dit, « Va, vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, avec ce qui reste. » Curieuse histoire qui peut sembler un conte de fées, mais non. Je vous ai déjà raconté, je crois, la dernière fois que la secrétaire qui travaillait avec moi quand j'étais au Canada m'avait raconté l'histoire de ses amis missionnaires qui n'avaient plus qu'une boîte de soupe Campbell. C'est pas très grand, hein, les petites soupes Campbell américaines. Et ils avaient vécu là-dessus pendant 8 jours. Et ça s'est arrêté. La boîte est restée vide le jour où ils ont reçu leur colis. Enfin, ils étaient inquiets parce que le colis n'était pas encore arrivé, mais leur colis est arrivé le soir. Donc, c'est des choses qui arrivent, oui. Dieu peut tout faire. Hein. Alors là, on a plusieurs problèmes avec ce texte. La femme d'un des prophètes, là, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. On vient de finir une bataille et on parle des prophètes, oui. Alors, on avait vu déjà dans le passé, vous rappelez, quand Élie est monté au ciel, que il y avait des communautés de prophètes dans les villes d'Israël. C'était peut-être ces gens qui étaient parmi les 7000 dont Dieu avait dit il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas plié le genou devant les Baals. Voilà. Donc, ils vivaient proches, mais n'étaient pas en communauté, puisque vous voyez, ils pouvaient avoir femmes et enfants et leur propre maison. Donc, mais ils étaient suffisamment proches pour prier ensemble, certainement. Hein. Voilà. La deuxième chose. À cette époque, il faut que vous vous rappeliez bien qu'une femme veuve se retrouvait complètement démunie. On n'est pas là. Je ne peux pas résister. Quand je faisais la culture biblique au 5e à l'école Notre-Dame, il y avait c'était des garçons qui m'avaient dit « Mais madame, elle avait qu'à aller travailler au bureau. » Quelle idée, pourquoi ? Je dis bah, « Quel bureau ? On est en moins 600, 700, non, peut-être plus, moins 800 là. Les bureaux, je ne sais pas, hein, en Israël à l'époque. Bon, bah oui, on ne s'imagine pas qu'à cette époque-là, il n'y avait rien. qui était prévu. Donc, on dépendait totalement, les femmes veuves dépendaient totalement alors de la famille, c'est-à-dire les frères et sœurs, les parents si elles en avaient encore, les frères et sœurs, les enfants s'ils étaient en âge de travailler, mais elles ne pouvaient rien faire. Et si vous voulez voir un peu ce qui se passait, relisez le livre de Ruth, où vous voyez comment Naomi cherche sa famille quand elle rentre, parce que il n'y a pas d'autre solution. Il fallait être aidée par la famille. Alors, elle pouvait se mettre au service de gens riches, comme servante. Elle pouvait, à la campagne, peut-être élever des animaux, etc. Mais encore fallait-il qu'elle ait un minimum d'argent. Les seules femmes veuves qui pouvaient s'en tirer, c'est celles qui avaient des gros héritages agricoles, par exemple, des fermes, et qui avaient des intendants et des serviteurs qui continuaient à faire fonctionner la ferme, et elle pouvait en bénéficier. Mais voilà, c'était seulement le top de la richesse qui pouvait être pourvue. Les femmes, autrement, étaient vraiment... Donc, c'est important, parce que là, on est dans un double problème. Son mari avait emprunté de l'argent. Alors, au passage, je vous signale qu'on ne peut pas se servir de ce passage pour dire qu'il ne faut pas faire de dette. Il n'y a aucun jugement sur la question dans la Bible. Simplement, la seule condition, c'est de rembourser. D'ailleurs, ça se voit très bien ici, hein? Mais il n'y a pas de jugement sur le fait de ne faut jamais faire de dette. Parce que parfois, il y en a qui pensent ça. Il faut en faire le moins possible, je suis d'accord. Hein? Mais il y a des choses, on ne peut pas faire autrement. Là, elle a double problème. Le gars qui lui a prêté l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui respecte bien la loi. Parce que... Si je reprends la loi, c'est ce que j'ai fait. Lévitique 25, verset 35. Si ton frère devient pauvre, c'est ce cas-là, et que les ressources lui manquent, qu'est-ce qu'on fait? Tu le prends en esclavage? Tu prends ses enfants en esclavage? Non, tu le soutiendras, même si c'est un immigré ou un résident temporaire. Ah, alors quand on dit que les chrétiens sont contre les immigrés, voilà, c'est pas ce qui est dans la Bible, hein. C'est une chose de dire ouais, les chrétiens ils sont ceci, cela, c'est pas du tout ce qui est dans la Bible. Je vais le répéter parce que c'est important. Quand on vous dit ouais, bon, les chrétiens, c'est quand même écrit très clairement, si ton frère devient pauvre chez toi et que les ressources lui manquent, tu le soutiendras, même si c'est un immigré ou un résident temporaire. Il s'agit bien sûr des frères, mais quand même. Alors, il y a un autre verset, verset 39, qui dit, si ton frère devient pauvre chez toi et qu'il se vende à toi, c'est une autre étape, ça, qu'il se vende comme serviteur, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave, il sera chez toi comme un salarié, comme un résident temporaire, il sera à ton service, mais jusqu'à l'année du jubilé, c'est-à-dire normalement, au bout de 6 années, lorsque tu achètes aussi un esclave, il servira 6 années, la 7e, il sortira libre sans rien payer. Donc c'était pour un temps limité et après on retrouve sa liberté. Bon, ceci étant, j'en profite pour dire, la traite des esclaves était parfaitement interdite dans la Bible et c'était sanctionné par la peine de mort. Donc quand on vous dit oui, les chrétiens et l'esclavage, non, non. Exode 21, 16, celui qui enlève un homme, c'était le problème de la traite des esclaves, hein, qu'il l'ait vendu ou qu'on le retrouve entre ses mains, il sera mis à mort. On oublie, hein, ces passages-là. Mais c'est dans la Bible, c'est dans la loi. L'ont-ils respecté? Je ne sais pas, mais c'est dans la Bible. Et l'esclavage, tel qu'il a été conçu aux États-Unis particulièrement, ou par les Arabes, hein, les musulmans, ont beaucoup organisé de traite d'esclaves autrefois, c'est parfaitement anti-biblique. C'est important de le savoir, on n'y pense pas toujours, on pense plutôt sentimentalement, hein, mais la loi était claire, c'est la peine de mort pour prendre des gens et les mettre en esclavage. Alors après, il y avait les prises de guerre, des choses comme ça, où les gens pouvaient être esclaves. Mais, alors, j'ai pas, c'était pas le sujet, donc j'ai pas poussé, mais c'est écrit clairement la façon de traiter les serviteurs et les esclaves dans la Bible. C'est pas de la cruauté. Il y a vraiment des lois claires pour les protéger et pour leur redonner la liberté après un certain nombre d'années. Donc, je rentre pas là-dedans, mais c'est important d'en être conscient, hein. Donc là, ce créancier, il n'est pas tout à fait Parce que normalement, c'est les gens qui se proposent pour être serviteur, pour survivre, mais c'est pas quelqu'un qui impose, tu me dois de l'argent, donc tu vas être mon esclave. Ça marche pas dans ce sens-là. Donc ce créancier, il pousse un peu au-delà de la loi. Et elle dit, il est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Vous voyez? C'est pas elle qui a proposé. Donc là, ils sont hors la loi. Donc c'est important de comprendre ça dans cette histoire parce que c'est quand même, elle est vraiment dans un problème, cette femme. Elle a plus de quoi vivre. Ses enfants risquent d'être pris en esclavage. Et si elle a plus d'enfants, qu'est-ce qui va s'occuper d'elle après? S'ils sont en âge de travailler. Par contre, on remarque une chose, c'est que Élisée connaissait, parce qu'elle dit, mon mari, ton serviteur est mort, et tu sais qu'il craignait le Seigneur. Et j'aime bien cette définition. Parce qu'elle dit pas, mais tu sais qu'il faisait des œuvres de charité, tu sais qu'il était gentil, tu sais qu'il était doué pour ci, pour ça, tu sais qu'il priait beaucoup, tu sais qu'il craignait le Seigneur. Ça dit tout. Quand on craint le Seigneur, le reste suit. D'où l'importance de craindre le Seigneur. Pas d'avoir peur du Seigneur, mais de chercher vraiment à le respecter et à faire ce qu'il nous demande. C'est ça, craindre le Seigneur. C'est pas trembler. Mais c'est vraiment chercher à lui faire plaisir, à faire ce qu'il veut. Et ça suffisait comme qualité pour que Élisée puisse se rappeler exactement qui il était. Et c'était un homme qui craignait le Seigneur. C'est important pour Élisée aussi, parce que ça nous prouve aussi qu'il connaissait bien les prophètes. Tu sais qu'il craignait le Seigneur. Donc il les connaissait bien, les prophètes de la communauté où il résidait, ou peut-être où il passait de temps en temps. C'est un petit peu d'histoire en même temps. Alors, moi, j'aime bien la première question d'Élisée. Que puis-je faire pour toi? Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui posait toujours la question, que veux-tu que je fasse? Jésus. C'est formidable. Parce que, franchement, parfois, on est dans des circonstances où, si Dieu nous pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce qu'on pourrait répondre? Vous voyez, cette femme, elle n'a pas pu répondre. La Bible ne rapporte pas sa réponse. Et est-ce qu'on n'est pas dans des cas semblables parfois? Où ça nous semble tellement compliqué, tellement difficile, on ne sait pas par quel bout prendre le problème. Elle est dans le chagrin, elle est dans la peur, elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle n'arrive pas à dire clairement à Élisée, ben voilà, ce que je demande à Dieu aujourd'hui, c'est ça. Et peut-être vous êtes dans un cas comme ça. Alors peut-être, au contraire, vous savez très bien ce que vous avez demandé au Seigneur, mais moi je pense à ceux qui sont dans des situations de détresse où il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu qu'on ne sait pas quoi demander au Seigneur. Il y a une détresse, mais comment est-ce que je vais lui demander? Les difficultés s'accumulent, il y a des situations qui sont humainement impossibles à résoudre. Ou alors je me suis mis moi-même dans le sale drap, comme on dit, où ça dépend tellement d'autres gens, où c'est incroyable parce que ça dure depuis longtemps et on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des problèmes de santé, des problèmes de famille, des problèmes d'argent qui sont entremêlés. Je pense à ces cas-là parce que ça arrive souvent et on ne sait pas par où commencer. Elle a son deuil, son chagrin, la dette impossible à payer, les enfants à nourrir, le créancier sans cœur. Et donc, elle ne peut pas répondre. Alors, Élisée, c'est Élisée qui va continuer. Et il va dire, qu'est-ce que tu as à la maison? Ça vous rappelle quelque chose? La multiplication des pains? Ah. Où Jésus pose la question. Combien avez-vous de pain, je crois, c'était la question. Oui, combien de pain avez-vous? Vous voyez, avant de prier, parfois c'est bien de poser des questions. Est-ce que tu veux être guéri? Parfois Jésus demandait. Demandez à un aveugle. Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et pourquoi c'est important? Parce que Dieu veut savoir quel est notre engagement dans l'affaire. Il veut répondre à nos prières, mais il faut qu'on puisse verbaliser aussi notre prière, hein? Qu'on soit précis. Et vous savez, moi j'ai eu le choc de ma vie quand j'étais jeune, je faisais le service de bibliothèque dans un hôpital de Rouen, et j'en profitais pour témoigner aux gens. Et Je suis tombée sur une dame qui avait l'air croyante et je lui ai parlé du Seigneur. Je lui ai dit que le Seigneur pouvait la guérir. Et elle m'a dit, ah non, non, je suis très bien comme ça. Elle bouquinait toute la journée, elle était contente, elle était un peu paralysée, donc elle ne pouvait pas se lever. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu quelqu'un de malade qui ne voulait pas guérir. Et ça m'a fait un choc, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. C'était... Et donc, j'ai compris ce jour-là pourquoi Jésus posait la question. Bien sûr. Et c'est important qu'on puisse verbaliser, mais là, elle ne pouvait pas. Alors, la deuxième question, c'est « Qu'est-ce que tu as à la maison ?» Et je me suis dit « Mais enfin, on a notre Dieu et le Dieu créateur de l'univers. Pourquoi est-ce qu'il va se préoccuper de ce qu'on a à offrir ?» Surtout qu'il sait très bien qu'on n'a pas grand-chose. Et c'est un truc que j'ai découvert au fil des années. Souvent, Dieu veut collaborer avec nous. On fait notre part, alors notre part, elle est microscopique, et lui, il fait la sienne, c'est géant. Mais il aime qu'on collabore. Et là, on va voir comment ça se passe. Élisée pensait peut-être un peu d'argent, des animaux peut-être, des tissus, des bijoux, enfin à l'époque. Mais non, elle n'a rien qu'un flacon d'huile. Un flacon. Donc, autrefois, l'huile était dans des jarres en terre, hein, qui étaient un peu pointues, qu'on plantait dans un support, ou bien dans, on les enfonçait dans la terre, comme c'était pointu, voilà. Donc vous imaginez, un flacon, pas une amphore, un flacon d'huile. Alors, j'ai quand même cherché, parce que c'est vrai que la question se pose, comment est-ce qu'elle pouvait, même en vendant beaucoup de récipients d'huile, on suppose qu'il s'agit d'huile parfumée. Rappelez-vous la femme qui a versé l'huile parfumée sur les pieds de Jésus. Ça coûtait une fortune. Et elle en avait certainement un petit peu. Une petite fiole avec ce parfum. On suppose, hein, parce que pour vivre, comme on va le voir à la fin, il fallait que ce soit quelque chose de très cher. Alors, il semble qu'avec Jésus, avec Dieu, il y a souvent une volonté de commencer avec ce qu'on a, même si c'est très peu de choses. Il commence là où on est, il commence avec ce qu'on a. C'est sympa, quelque part, hein, je trouve que c'est formidable. Il ne méprise pas ce qu'on a. Dieu regarde à ce qu'on a. Pourtant, il pourrait franchement faire un miracle spectaculaire à partir de rien. Mais très très souvent, j'ose pas dire toujours, mais très souvent, il va se servir du petit peu que nous avons. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que tu as et que Dieu peut multiplier ? Ça peut être un talent, un appel, des compétences particulières, des choses que Dieu lui peut utiliser et faire prospérer. Non seulement il les utilise, mais il les multiplie. Je pensais à une graine. Vous savez, quand on était aux États-Unis, j'avais cherché à avoir des graines de séquoia. Je me disais, ces grands arbres, vous savez, on passe en voiture au milieu. Donc même notre petit camion était passé sous le séquoia. Je me dis, oh, il doit avoir des pommes de pin. Je suis très amateur de pommes de pin. Donc... Et puis, à ma plus grande surprise, les pommes de pin de séquoia, elles sont plus petites qu'un œuf. Hein. Et puis, les graines dedans sont toutes petites. Ça fait drôle. Il y a pourtant dans cette graine, il y a toute la vie, tout ce qui est nécessaire pour faire un arbre géant qui vit 2000 ans et plus. Général Sherman, il a 2000 ans, je crois, il est toujours là. S'il n'a pas brûlé dans les feux de Californie. Et donc, il y a une puissance dans les petites choses avec Dieu. Même s'il pouvait faire des miracles spectaculaires avec rien, il veut se servir de ce qu'il nous a donné. Et on voit ça très souvent dans la Bible. Il va utiliser Gédéon, le plus petit des plus petits. Il va utiliser David, le petit berger que tout le monde rejetait. Il va servir des petits restes, rappelez-vous Élie, avec l'huile et la farine. Un petit reste d'huile, un petit reste de farine. Là, c'est l'huile avec Élisée, et puis Jésus avec les pains et les poissons. Il se sert de « qu'est-ce que tu as ?» Et il faut se poser la question « qu'est-ce que j'ai, Seigneur ? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie que tu peux faire prospérer ?» Et si vous êtes comme cette femme dans une situation bloquée, travail, relations familiales, santé, problèmes financiers, etc., ça vaut le coup de se poser la question « qu'est-ce qui reste dans ton cœur ?» Avec tout ça, avec tous ces poids, tous ces soucis, qu'est-ce qui reste ? Peut-être vous en avez moins, mais il y en a quand même un peu. Qu'est-ce qui reste ? Et je me suis posé la question, quand on a des problèmes comme ça, qu'est-ce qui reste dans notre cœur ? Alors, peut-être que nous non plus, on ne saurait pas répondre. Si le Seigneur nous disait « Que puis-je faire pour toi ?»« Seigneur, je ne sais pas par quoi commencer. » Mais qu'est-ce qui reste alors au fond de ton cœur? Il n'y a peut-être même plus trop d'espoir. Oh, on a prié pendant des années, rien n'a changé. Parfois, c'est une situation trop compliquée. Alors, souvent, les chrétiens rajoutent une phrase que j'utilise moi aussi, et j'ai honte de l'utiliser, mais bon, on fait tout ça. Qu'est-ce qu'on dit? Il ne me reste que la prière. Comme si c'était le dernier recours, quand on ne trouve plus rien. Il me reste que la prière. Que ça, c'est pas grand-chose. Alors, je pense à cette petite fiole d'huile parfumée qui valait certainement déjà très cher, mais je n'ai qu'une petite fiole d'huile. Eh bien, nous, chrétiens, on n'a que la prière. Comme si c'était tragique. Mais non, on a chanté ce matin, j'étais contente. Dieu est grand. Et la prière à un Dieu grand, c'est pas une petite prière, c'est une grande prière. Je n'ai que la prière. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette prière, nous? Eh bien, cette femme, déjà, avec son huile, elle est allée chercher des récipients chez tous les voisins. Alors là, franchement, je trouve qu'Élisée, il a poussé. Hein. Petit flacon comme ça, il lui dit, va chercher des récipients. Mais je suis sûre qu'elle a... Je ne peux pas m'imaginer qu'elle ait compris ce qu'il voulait. Hein. C'est pas possible. Puis tu vas verser. Et là, tu te dis, oh là là, le soleil tapait aujourd'hui. Moi, je ne sais pas... Vous imaginez frapper à toutes les portes. Pourquoi tu veux des récipients? Ben, c'est Élisée là qui m'a dit. Bon, ben écoute, on voit la 3, on voit la 4, on voit la 5. Et puis, avec ces deux garçons, elle est allée chercher les récipients. Et là encore, pourquoi Dieu l'a fait participer? C'est rigolo quand même. Pourquoi Dieu lui demande ça? Il aurait peut-être pu faire autrement. Il aurait pu multiplier les récipients aussi à la limite. Elle en avait certainement chez elle. Mais non, il va lui demander de participer. Et Dieu est comme ça avec nous. Parfois, je dis, mais Seigneur, t'as pas besoin de nous. On est plein de défauts. Mais non, ça ne le dérange pas tant que ça. Il veut travailler avec nous. Alors, soyez encouragés si vous vous considérez plus petit que le plus petit, comme Gédéon ou David. Et Dieu veut travailler avec nous. Il veut nous faire participer au miracle. C'est rigolo. Moi, je trouve ça étonnant, mais il le veut. Donc elle va chercher des récipients chez tous les voisins, j'ose pas croire ce que les voisins ont pu lui dire. Puis elle rentre avec ses enfants. Et là, il y a un verset qui m'a choquée. Ferme la porte et verse. Ça vous fait pas penser à autre chose? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et là dans le lieu secret, le Seigneur, etc. Et c'est un peu ça, voilà. C'est pas un spectacle. Ça aurait pu être un spectacle. Venez les voisines, venez voir. Élisée a dit, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Allez, allez, messieurs, dames, venez. Entre dans ta chambre. Et bah, du coup, j'ai encore appliqué ça à la prière. Entre dans ta chambre et prie. Prie. Verse ce petit truc qui te reste au fond. Il n'y a plus que la prière. Verse dans un récipient. Puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Verse. Dans le secret. Elle ne voulait pas que ce soit un spectacle. Il ne voulait pas que ce soit un spectacle. Et la prière est puissante. Elle permet de multiplier les choses. Et cette huile, elle va remplir, ils ne disent pas combien, mais tout ce qu'elle avait comme vase. Et elle s'est arrêtée de couler quand il n'y a plus de récipient. Alors c'est curieux parce que ce matin, je lisais... Non, je ne sais pas si tu l'as lu ce matin... C'était justement, il y avait une petite phrase, c'est des méditations anglaises que j'aime beaucoup et Julie aussi. Et il y avait une petite phrase qui disait, quand il pleut, si vous ne mettez pas des récipients dehors pour recueillir la pluie, ben vous n'aurez pas d'eau. Si vous voulez de l'eau, ben faut mettre des récipients dehors. C'est ce que faisaient les gens autrefois, ça se voit encore dans les jardins. Et c'est un peu ça. Si on arrête... Ça s'arrête. Et la prière, c'est pareil. Il faut continuer à prier. Prier sans cesse. Ça, c'est dur hein, pour nous. Prier les uns pour les autres, d'accord, ça c'est Jacques 5, 16. Mais prier sans cesse, Luc 21, 36, 1 Thessaloniciens 5, 17. Prier sans cesse. Prier, prier. Et là, ça ne s'arrêtera pas de couler. Ça ne s'arrêtera pas. Aussi longtemps qu'on va prier, qu'on va continuer à prier, on va remplir des bonnes choses. Alors, au point de départ, on n'avait rien de surnaturel. Une petite fiole, un récipient. Je jusque-là, tout va bien. Mais après, ce qu'il lui fallait, c'était sa foi et son obéissance. Et alors, il y a eu miracle. Donc, avec ce qu'on a, il faut rajouter la foi et l'obéissance. Et là, on aura les miracles. C'était très peu, finalement. C'était même complètement ridicule par rapport à son besoin urgent. Hein, les enfants vont être pris en esclavage, etc. On va mourir de faim. Et est-ce que, finalement, notre seul bien précieux qui reste dans nos circonstances difficiles, c'est pas la prière? Et on la néglige tellement, tellement, tous. Élisée a demandé peu de choses, il n'a rien demandé d'impossible. Tu sors, tu vas demander des récipients, et puis tu te contentes pas d'un petit nombre. J'ai bien aimé ce verset. Pas un petit peu, hein. Allez, 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 allez. Il y a d'autres textes dans la Bible hein, où il lui demandait de frapper. Voilà, pas seulement une fois ou deux, il fallait frapper plus. C'était symbolique. Et puis, obéir, voir grand, ne pas limiter le nombre. Quand ils ont fait les fosses, plus il y a eu de fosses, plus ils avaient d'eau. C'est l'histoire de mon eau, là. Si tu veux, bah, tu mets tes récipients dehors. Quand il pleut, tu auras de l'eau. Si tu ne les mets pas, tu n'en auras pas. Obéir, et puis rentrer, fermer la porte, parce que ce n'est pas un spectacle. On ne fait pas ça pour être important ou pour dire on a la meilleure église parce qu'on a plein d'exaucements de prière. Que Dieu nous garde ce genre de choses, que je crois qu'on va avoir beaucoup d'exaucements de prière. On commence à en avoir. C'est très beau. Mais que Dieu nous garde de dire, parce qu'on est la meilleure église, on est les meilleurs chrétiens, surtout, Seigneur, pas ça. Hein. On ferme la porte, on prie. Pas de spectacle. Ça me tient beaucoup à cœur. Et l'ampleur du miracle va dépendre de ce qu'elle a préparé. Alors, vous savez, quand on était au Canada, on allait à pied à l'église pour les réunions de prière, parce qu'on n'avait pas de voiture les premiers mois. Et on passait au centre de Montréal, il y avait des trous, mais ce n'est pas des trous, c'était des abîmes. Ils étaient en train de faire les fondations des gratte-ciels que vous voyez maintenant à Montréal, quand vous voyez des photos de Montréal, il y a des grands trous, très hauts. Mais c'était, on ne voyait pas le fond, quoi. Les bulldozers qui étaient au fond, quand on arrivait à voir à peu près, ils nous semblaient comme des jouets. Ça nous faisait drôle, à chaque fois on regardait entre les planches, on était curieux. C'est juste sur la route qu'on prenait pour aller à la réunion de prière. Et pour avoir quelque chose qui tienne, qui soit très haut, il faut creuser profond. Pareil, il faut creuser profond. Il faut préparer, il faut préparer. Lui, il va couler tant qu'il y a des récipients à remplir. Donc, après, elle va raconter ça à Élisée. Et là encore, il lui demande des choses. Vous voyez, la participation, tout le temps, Dieu demande qu'on participe. On n'est pas là, Seigneur, je te prie, puis tu fais le boulot, et moi, je me repose et j'attends. Il demande toujours cette participation. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Eh bien, tu as encore des choses à faire. Va vendre l'huile, déjà. C'était du boulot, quand même. Hein. Il fallait qu'elle se balade avec ses récipients d'huile à droite, à gauche, pour tout vendre. Ensuite, tu profites. Ah non, tu paies ta dette. Priorité. Tu dois de l'argent, tu le rembourses. Paie ta dette. Ok. Il aurait pu miraculeusement la libérer de sa dette. Permettre que le créancier dise « Oh, tu as touché mon cœur, tu n'as plus besoin de me rembourser. » C'est des choses qui arrivent, mais ce n'est pas ce qu'il a fait là. Elle a dû obéir, aller vendre son huile, payer sa dette. Et enfin, tu vivras, toi et tes fils, avec ce qui va rester. Elle espérait qu'il en reste. Hein parce que... Donc, quand elle a commencé à vendre son huile pour rembourser sa dette, donc elle n'a pas donné au-delà de ce qu'il fallait donner, elle a remboursé sa dette et il lui en est resté. Alors, ce qu'on peut dire de cette histoire, c'est qu'il y a eu une irruption du miraculeux dans les gestes les plus ordinaires de la vie quotidienne. Oui, Dieu est dans les gestes les plus ordinaires de notre quotidien. Il est dans les gestes les plus ordinaires. Et il s'en sert miraculeusement. Dieu lui a demandé uniquement ce qu'elle pouvait faire. Bon, parfois, Dieu demande des choses impossibles, mais ce n'était pas le cas, là. Il lui a demandé ce qu'elle pouvait faire. Va chercher des récipients, ramène-les, remplis-les, etc. Après, va les vendre. Tout ce qu'elle pouvait faire, il lui a demandé, elle l'a fait. Et Dieu, lui, de son côté, ben, il a fait l'impossible. Alors, si on prie, on peut témoigner, mais c'est Dieu qui va toucher les cœurs. On peut prier, mais c'est Dieu qui fait les miracles. On peut travailler, mais c'est Dieu qui multiplie. On peut aider et bénir les gens, mais c'est lui qui peut transformer les situations. On peut soigner, on peut encourager, mais c'est Dieu qui guérit les corps et les âmes. Et aussi longtemps qu'on est conscient quelle est notre part et quelle est la part de Dieu, on est en sécurité. On ne va pas faire le travail de Dieu, mais on va faire ce qu'il nous demande, nous. Alors, je sais que dans la Bible, l'huile est aussi le symbole du Saint-Esprit. Là, j'ai pris la prière parce que je trouve qu'il y avait beaucoup de textes qui correspondaient, mais on en parlera une autre fois. Le Saint-Esprit qui agit dans nos vies. On peut aussi voir ce texte comme un symbole de l'action du Saint-Esprit. Il n'y a pas de souci. J'ai choisi la prière parce que je pense à ce réflexe qu'on a tous de dire « il n'y a plus que la prière ». Mais Seigneur, nous te remercions parce que tu nous associes à ton œuvre. Tu nous permets de faire ce que nous pouvons faire et pas ce qui nous est impossible ou ce qui est au-dessus de nos forces. Mais toi, tu fais l'impossible. Tu fais ce qui est au-dessus de nos forces. Tu fais ce qui est miraculeux. Et nous te remercions, Seigneur. Et moi, je te prie pour toutes les situations de mes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui, dans cette assistance ou qui écoutent sur Internet. Tu vois tous ceux qui ne peuvent même pas répondre à la question « Que puis-je faire pour toi ?» Tu vois tous ceux qui ne savent pas même peut-être exactement ce qui leur reste et qui disent « Il ne reste que la prière ». Eh bien, Seigneur, que vraiment ta puissance miraculeuse se manifeste dans tous les cas où on dit « Il ne reste que la prière ». Parce que la prière est faite à un Dieu grand et puissant qui est vivant et qui agit encore aujourd'hui dans toutes nos situations. Même si parfois, on a dû prier longtemps, mais Seigneur, tu es tout puissant. Et je te prie que pour chacun de mes frères et sœurs ici, qu'ils voient leurs exaucements de prière, qu'ils voient la puissance de la prière sincère faite et renouvelée devant toi. Seigneur, oui, nous voulons continuer à prier, comme chaque mercredi soir, comme chaque réunion d'âme, comme chaque réunion d'hommes. Nous voulons vraiment rentrer dans cette prière, parce que ça, on peut le faire. Toi, tu feras le reste, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de nous. Amen.